C'est parti pour une escapade d'une heure à la rencontre de Nantaises et Nantais venus d'ailleurs. Casser les stéréotypes, voyager, éduquer et mettre en avant des parcours singuliers, c'est ce que vous propose notre joyeuse petite bande. Installez-vous bien, Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est maintenant sur Prune 92 FM.
Bonjour, bonjour chers habitués des Nantaises et Nantais d'ailleurs, et belle année 2022, qu'elle vous porte une bonne santé et de belles réussites. Et si j'ose espérer, je sais que c'est peut-être prématuré, mais j'aimerais vraiment qu'elle soit la dernière qui soit autant marquée de la Covid-19 dans toutes ses formes et ses variantes. En attendant, nous à la table des Nantaises et Nantais d'ailleurs, nous nous afférons pour vous amener à la rencontre des Nantaises et Nantais de cœur. Et pour ce premier numéro de 2022, nous avons choisi de vous présenter une personne très investie à Nantes, si vous voulez, mais pas que. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. D'histoire, contée et de blog, vous allez tout savoir. Plus spécifiquement, nous allons parler des petites histoires de Charlie, un blog lancé par notre invité du jour, Charlemagne Segbeji. C'est bien comme ça qu'on prononce, très bien. Docteur en histoire de l'art. Bonjour Charlemagne.
Bonjour Laurine, bonjour à tous les auditeurs. Je profite également pour présenter mes voeux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent. D'où je viens, on dit la santé en premier. On espère, on croise les doigts pour que pour le coronavirus, ça s'améliore. Mais en tout cas, je souhaite d'abord la santé, puis la concrétisation des projets pour tous ceux qui en ont. Et je vais m'en arrêter là pour le moment.
C'est déjà beaucoup et c'est très bien. Bonjour aussi Tim, qui est notre réalisateur pour ce numéro. Aurez remarqué, on a beaucoup de passages cette année. Merci d'être venu.
Avec plaisir.
Et donc je disais, merci Charlemagne d'avoir répondu favorablement à l'invitation des Nantaises et Nantais d'ailleurs. Alors Charlemagne, nous allons parler d'histoire des peuples noirs et de leur diaspora et de leur patrimoine, qui est un petit peu votre cœur de métier, si j'ose dire. Une démarche d'ailleurs qui fait, si je peux dire, un certain succès ces dernières années, je pense notamment à la chaîne YouTube Grandeur Noire ou encore à la chaîne Noire Histoire. Il semblerait que des jeunes Africains ou jeunes de la diaspora se saisissent des nouvelles plateformes de communication pour découvrir et relayer l'histoire des peuples dont l'histoire serait le plus souvent, si je puis dire ou employer l'expression, présentée sous le prisme d'autrui. Donc pendant une heure, nous découvrirons le projet de Charlemagne, docteur en histoire de l'art, qui a décidé de vulgariser l'histoire par son blog Les Petites Histoires de Charlie, sans oublier, parce qu'après tout nous parlons bien des Nantaises et Nantais d'ailleurs, du parcours du Nantais que je surnomme le conteur. Alors les Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est tout de suite.
Des femmes et des hommes à la croisée de chemin, vous écoutez Nantaises et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
Charlemagne Segbeji, comme je disais, vous êtes docteur en histoire de l'art. Vous êtes également professeur de civilisation extra-européenne à l'Université de Nantes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit peu un passage obligé à la table des Nantaises et Nantais d'ailleurs, qui est la nantitude. C'est un peu un héritage d'un des cofondateurs de l'émission qui voudrait qu'on découvre votre parcours de Nantais et un petit tampon à la fin de dire... En vrai, on n'a pas de tampon, on est vite. Alors, ma première question, Charlemagne, c'est celle-là. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Nantes? Qu'est-ce qui vous a amené à Nantes?
Alors, je serai toujours redevable à la ville de Nantes, au moins sur mon parcours professionnel. J'ai un parcours assez singulier dans la mesure où j'ai commencé ma thèse, on va dire, plus tard que les autres doctorants. Je suis rentré en France en 2014 où j'ai repris un master, parce que l'ambition, c'était faire vraiment un doctorat. Et en Afrique, notamment au Bénin, j'avais quelques difficultés pour déposer un dossier parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait certaines considérations qui faisaient que je ne pouvais pas faire une thèse à Abomey-Calavi au Bénin. Alors du coup, je suis passé par la procédure Campus France, malgré mon âge. Et ceux que j'ai eu à Campus France ont eu une oreille très attentive. Et donc, j'ai pu monter mon projet. J'ai eu 3 acceptations en France, une à Pau, une à Paris et 2 à Paris en fait. Donc 3 sur Paris et une sur Pau. Alors j'ai choisi le challenge de Pau parce qu'au départ, ce que moi j'avais dans mon esprit, c'était que Si je vais dans une ville moyenne, j'aurai moins de difficultés financières dans la mesure où mon projet, je le finançais par moi-même. Et surtout par des amis qui acceptaient de m'aider, de me pousser dans ce challenge. Donc je suis allé à Pau et honnêtement, en toute honnêteté, c'était l'horreur. C'était 15 mois de galère infinie et j'ai survécu à Pau grâce à des associations d'étudiants et je leur dirai toujours merci. L'épicerie solidaire de Pau, ils sont top. J'ai été bénéficiaire, j'ai été volontaire pour les aider aussi, bénévole. Et donc, durant pratiquement tout mon séjour à Pau, j'ai vécu grâce au secours, grâce à l'aide apportée par les bénévoles de l'épicerie solidaire de Pau.
Donc, l'horreur, c'était financier ou c'était toute cette transition en arrivant de complètement ailleurs ?
Non, moi, je n'ai pas... La transition climatique ou quoi ou autre, il n'y a eu aucun problème. C'est l'horreur, c'est la vie en elle-même. Parce que moi, je comptais avoir un petit boulot et c'est le projet de nombreux étudiants ou de nombreuses personnes qui viennent en France, qui n'ont pas de bourse, c'est trouver un petit boulot pour subvenir. Et quand on est en Afrique, on a l'image que oui, dès que vous arrivez en France, paf, à moins que vous soyez paresseux, vous trouverez toujours du boulot. Sur le terrain, il s'est avéré que ce n'était pas vraiment ça. Mais j'ai connu des gens sensationnels à Pau, il faut le dire. Des gens qui m'ont aidé, le directeur du CRUS de Pau, M. Péziadi, je n'oublierai jamais son nom. Ceux-là m'ont permis d'aller au bout de ma première partie de rêve, c'est-à-dire au moins finir le master. Okay? Et à la fin du master que je fais, ce master 2-là, je pourrais envoyer différentes demandes à tous les professeurs qu'il y a en France pour pouvoir maintenant faire le projet qui m'amène en France, c'est-à-dire la thèse.
Et c'est là où intervient Nantes.
C'est là où Nantes arrive, parce que j'ai contacté M. Guy Sopin. J'ai contacté beaucoup de professeurs, évidemment. M. Guy Sopin m'a écrit, m'a dit, écoutez, votre projet m'intéresse, mais il y a un petit souci. Moi, je ne peux plus prendre de doctorant parce que je suis admis à la retraite. Par contre, je vais transférer votre dossier à celle qui a repris mon étude sur le patrimoine à Nantes, qui est Mme Rousteau-Chambon, et on verra ce qu'elle pense de votre dossier. Ah, c'était déjà une bonne nouvelle. Donc, c'est comme ça mon lien avec Nantes commence à se faire. Mme Rousteau-Chambon m'envoie un mail, me dit, ce serait simple si vous pouviez venir pour qu'on échange, pour que je vous dise à quoi vous allez vous attendre sur Nantes. Et donc, je débarque de Pau à Nantes un jour pour m'entretenir d'abord avec Mme Rousteau-Chambon.
Et ce à quoi on peut s'attendre en quittant Pau pour venir à Nantes, c'est quoi ? Quelle est la transition ? C'est-à-dire que déjà, vous aviez connu la transition entre le Bénin et Pau, et après Pau à Nantes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou est-ce qu'il y a un réel changement de Pau à Nantes ?
Tout d'abord, je ne faisais qu'une seule prière en quittant Pau. Je me suis dit, j'ai connu la situation la plus basse possible. Ça ne peut pas être pire. En même temps, ça dans la tête, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut qu'être mieux. Donc, en venant à Nantes, ma vision, ma prière, mes désirs, c'était que Nantes soit meilleure que Pau. Après, je venais à Nantes pour plusieurs années. Donc, je me disais que je finirais bien par trouver quelque chose. Et ça s'est décanté plus vite que je ne pensais, en fait.
Donc, Nantes vous a plus réussi que
Pau.
Du moins, financièrement,
oui.
Déjà, on a compris.
Sur le plan du travail, je suis arrivé, j'ai été admis dans une cité universitaire. Le jour même où j'arrive dans la cité, je rencontre un des agents d'accueil. Coucou, Yacouba Koulibaly. Et donc, oui, il me dit, vous n'avez pas de boulot ici, j'ai vraiment besoin de travailler. Il me dit, ah, mais en fait, on a des gens qui viennent de démissionner, déposer, peut-être qu'on vous prendra. Donc, il est le premier homme sur Nantes ici. J'ai un jeune homme qui était en master. Il m'a dit, ah, grand frère, essaie de déposer. Peut-être que ça va marcher. Et effectivement, quelques jours après, la directrice, Mme Perrin, m'appelle. Je passe les entrevues et puis je suis engagé comme agent d'accueil à Nantes. Donc, ça commence bien.
Alors, il y a une petite entrée par une forme de diaspora, parce que je ne connais pas forcément de quel pays vient Koulibaly. Mais est-ce que les Nantais vous ont accueilli les bras ouverts ? Parce qu'on a cette notion que les Nantais sont accueillants. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça ?
Oui. Honnêtement, j'exagère peut-être un peu, c'est le jour et la nuit pour Nantes. Mais déjà, dans le blablacar que j'ai pris de Pau pour Nantes, j'ai échangé avec des gens déjà à Pau qui me disaient « Ah, tu... » Parce que sur la fin... Pour ne pas exagérer à Pau, sur la fin, j'ai eu des heures d'enseignement pour adultes. qui sont en reprise avec le CNFPT. Et donc, je leur ai dit à la dernière séance, écoutez, moi, je dois partir, je suis Nantes. Et tous me disaient, ah non, on connaît Nantes, c'est une ville dynamique. Les gens sont plus chaleureux, les gens sont plus accueillants. Et ce n'est pas moi qui le disais, c'était des habitants de Pau qui me le disaient à moi. Donc bon, j'arrivais avec un a priori favorable. Donc voilà, ça s'est confirmé sur le terrain. Donc oui, j'estimais que c'était déjà mieux, au moins au niveau, à l'entrée de Nantes déjà, je trouvais que l'atmosphère est déjà meilleure. J'exagère un peu peut-être, mais bon, à peine.
Alors, cela fait quelques années que vous êtes habitant à Nantes. Est-ce que vous vous sentez nantais ?
Se sentir nantais, oui, et peut-être non. oui, parce que quand vous arrivez quelque part, et ça, je tiens cette pensée-là de ma mère, quand vous arrivez quelque part et que vous savez que vous êtes étranger, mais l'accueil est plus que ce que vous attendiez, vous vous sentez déjà un peu chez vous. Oui, je me sens nantais. Oui, je me sens nantais parce que je peux comparer la vie dans différentes villes, parce qu'après, j'ai pu connaître des villes comme Orléans, où mon grand frère se trouve, Paris, c'est Paris. Mais oui, je me sens nantais. Je me sens nantais. Maintenant, je suis bien intégré. Je me bats pour Nantes, je fais plein d'activités sur Nantes. Oui, je me sens nantais.
Vous évoquez ma prochaine question en réalité. La première, est-ce que vous vous voyez quitter Nantes à ce stade de votre vie, enfin, je n'ai pas envie d'employer le terme intégration, mais dans votre parcours de vie actuellement, vous voyez quitter Nantes. Et comment est-ce que vous êtes investi dans la ville actuellement ?
Ok. Quitter Nantes, disons que c'est un challenge qui viendra peut-être après. Pour le moment, j'essaie de m'installer sur la durée à Nantes. Il faudra que ce soit un challenge vraiment attrayant pour que je quitte Nantes. Mais pour le moment, ça va. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin à Nantes. Et la deuxième question,
Parce que vous dites, je me bats pour Nantes au quotidien, en quelque sorte.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous faites à Nantes ?
Voilà, je me bats pour Nantes parce que quand je suis venu, je me suis dit, après ce que j'ai traversé, je vais quand même m'investir pour rendre le séjour un peu plus agréable à tous ceux qui arriveront. Et dans le travail que j'avais à la cité Berlioz, agent d'accueil, ça vous permet de rencontrer toutes les nationalités possibles au niveau des étudiants. Et honnêtement, ce travail-là, il était gratifiant pour moi en termes de rencontres humaines. J'en ai rencontré de beaucoup de nationalités, des Africains, presque toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, oui, je veux donner un peu de ce que j'ai reçu de Nantes. Donc, je me suis engagé sur le plan associatif, par exemple. Je suis dans l'association Béninois et Amis de Nantes. Donc, hier, par exemple, on a commémoré le 10 janvier, qui est la journée du Vaudou. Et on a donné une conférence pour parler du Bénin à Nantes, mais on invitait surtout tous ceux qui étaient intéressés par cette culture africaine-là, du Vaudou ou du Bénin. Et donc, oui, je travaille aussi en synergie certaines fois avec la mairie qui a ban Béninois et Amis de Nantes dans sa base de données. Donc, toutes les activités sur Nantes, on nous sollicite pour savoir si on voudrait participer, s'il y a des idées qu'on veut émettre, s'il y a des conférences qui nous intéresserait. Donc oui, me battre pour Nantes, ça m'intéresse. Sur le plan universitaire aussi, j'ai mon poste de chargé de cours. Donc oui, je suis sur plusieurs fronts à Nantes. Oui.
C'est vrai que nous reviendrons un petit peu plus tard sur votre parcours au niveau de l'université. Mais vu qu'on parle de votre histoire et de l'histoire, je propose que nous marquions une pause musicale avec My Story par Freestyle.
Big C made a banger.
Let me tell you about my story. Warsaw boy, at a turn where it started. When we learned to clout it, chilling around Gambians and Yardies. Always chase money, never chase a Nani. Made me cup of Marlies and show me how to get it in. Now it's fast cars living. Diamonds blinging, always mad when you're winning. Bitches show you love, they don't love you. Niggas say they got you, they ain't got you. Told my little bro, be careful cause the streets don't love you. Going clear, it's something not a lot to do. So I stay on my grind. I'll be focused on the bag in the day and the night, not a silly hoe. Me and my niggas made a killing off a semaphore. We never did things to show. In my circle now we're talking about properties. Playing around with money like Monopoly, honestly.
I pray one day that I make it clear. I pray one day I'm a millionaire.
It was like that, it was rough. Teacher talking to you nasty. You don't believe in believing, you don't see nobody making it. I still believe I can make it through all that, so why would I listen to anybody? Where we come from, if you're not locked up and dead, you're winning. And that's a mind game in itself. That's a mind game in itself. A mind game in itself.
I put an M in money, I'm links money. She says she want links money, better cool, honey. You're too funny, can't cool on me. Everybody rap capping by the banging of gangs. I put money on heads like Sankey dead. Don't make me call MC and like tucking your dread. Jump on a pet and start banging the skin. Like the time of the month, we'll be leaving it red. You heard what I said, I'm in love with the bread. If you owe links money, better come in your rep.
Even if I saw them all is in my city, yeah, then know I got an end like a knocker in a sim, yeah. Come from Brompton, city full of guns now. Little nigga Nari in a fun town. You can get gunned down.
Vous écoutez Nantaise et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
C'était My Story par Freestyle et nous sommes toujours en compagnie de Charlemagne Sekbeji qui nous parle des petites histoires de Charlie. Charlemagne, vous êtes docteur en histoire de l'art depuis mars 2021, je l'ai suffisamment dit. Vous avez depuis lancé le blog Les Petites Histoires de Charlie qui est aujourd'hui, je pense, compte plusieurs centaines d'abonnés, autour de 900 je crois, et qui sont très appréciés d'ailleurs, par, si j'en crois, les commentaires Facebook. J'ai envie de vous poser la première question. Qu'est-ce qui a motivé ce blog?
Alors, au départ, en faisant ma thèse, je savais que il y aurait une partie vulgarisation. Donc, à la fin de la thèse, depuis mars 2021, j'ai écrit à différentes maisons d'édition pour savoir dans quelle mesure tout partie du travail pouvait être édité. Mais en vérité, je n'ai eu aucun retour. Ça doit être normal, je crois.
Alors, juste pour nos auditeurs et auditrices, c'était quoi le sujet de la thèse?
Alors, c'était patrimoine et patrimonialisation dans le sud du Bénin. Je sais plus, l'architecture et le patrimoine, je n'ai pas la formulation exacte, je l'ai oublié, désolé. Donc, ça tourne autour de tout le patrimoine, c'est-à-dire architectural, culinaire, vestimentaire des Afro-Brésiliens dans la boucle Bénin-Togo-Nigeria, mais j'ai concentré mon travail sur Porto Novo et Ouidá. Donc c'est ce patrimoine afro-brésilien que j'examine à l'aune des transferts qu'il y a eu entre le Brésil et la corde des esclaves, entre le 19e et le 21e siècle en fait. Donc c'est autour de ça que qu'il y a ce travail-là. Donc, pour revenir à la question de départ, je veux parler de ce travail-là, mais l'élargir en fait. Parce qu'avant de faire cette thèse-là, à l'université de Calavi au Bénin, j'avais travaillé sur deux sociétés de masques, les Galédais du Bénin et puis les masques ouais, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est la ville, la région d'où moi je viens en fait. Donc le blog, c'est parler globalement des civilisations africaines, mais en commençant par ce qui a fait l'objet de ma thèse un peu, les Afro-Brésiliens en fait. C'était ça le but. Et élargir l'audience, élargir le travail à certaines civilisations sur lesquelles je travaille aussi dans le cadre de mon poste de chargé de cours à l'Université de Nantes. Voilà.
Et en préparant l'émission, je vous ai posé cette question-là et je vais vous la reposer aujourd'hui aussi. Est-ce que la naissance du projet, la genèse du projet est distincte de la motivation du projet? Parce que je pense notamment à la polémique qui était née suite à la phrase de Nicolas Sarkozy que l'homme noir ou l'homme africain n'a pas assez marqué l'histoire. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi de remettre l'homme noir ou l'Africain et la diaspora africaine en réalité aussi dans leur vraie place dans l'histoire?
Mais Moi, je considère que ce débat-là, en fait, ce travail, pas ce débat, ce travail, il va de soi. J'estime que les chercheurs, les universitaires actuels africains ont un challenge différent à relever par rapport à nos devanciers. L'histoire ne peut pas se faire sans nous. On ne peut pas faire l'histoire actuellement sans les chercheurs africains. Il est normal que les Africains s'invitent dans le champ du débat, s'invitent dans toutes les actions qui vont se mener. Et si vous vous invitez, vous produisez vous aussi vos écrits, vous donnez vos éléments de preuve. On ne dit pas que vous détenez la science infuse, mais vous donnez vos éléments de preuve, vous donnez vous votre point de vue. Et c'est à l'aune de ces échanges-là qu'on verra que la pensée africaine est foisonnante, la pensée africaine est plurielle et qu'on ne va pas s'en remettre chaque fois sur les écrits d'Européens ou d'autres peuples pour parler de l'histoire de l'Afrique. Ce sont les Africains qui doivent se saisir de cette partie-là. Et moi, j'estime que c'est un challenge qui est déjà assez relevé par de nombreux chercheurs africains, notamment béninois, ivoiriens. Et donc, je vais faire partie de cette dynamique-là. Donc, c'est normal que j'utilise des voies, des moyens qui me sont offerts, en fait. Voilà.
Et c'est aussi une question dont nous avons eu l'occasion d'en parler avant. À qui vous vous adressez ? Est-ce que vous vous adressez aux Français ? Est-ce que vous vous adressez à la diaspora ? Est-ce que vous vous adressez aux Africains qui sont présents sur le continent africain à ce moment précis ? À qui ? Est-ce que vous avez un public cible ?
Bien, moi, j'estime que je dois rendre mon propos le plus accessible possible. C'est-à-dire quoi ? Je voudrais que ce que j'écris soit compréhensible pour la grande masse. Mon petit frère qui m'a beaucoup aidé dans la mise en œuvre, qui est à Abidjan, qui m'a beaucoup aidé dans la mise en œuvre de ce projet-là, m'a expliqué, il m'a dit, grand frère, s'il te plaît, ne nous sors pas ce que tu as écrit dans ta thèse in extenso, parce que ça ne sera pas compréhensible pour nous. Donc, rendre ça le plus accessible possible. Certaines fois, dans les publications, j'évite de mettre de longues citations. Je rends mes propos le plus simple possible. En vérité, je me dis que l'Africain moyen, l'Européen moyen devrait comprendre tout ce que je publie. C'est ça l'ambition, c'est ça le projet. Et donc, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. J'ai vu les chiffres de mes lecteurs. J'en ai de, on va dire globalement, de 16 à 65, 70 ans. Mon public est assez large. Donc, je m'adresse à tout le monde, en fait. Tous ceux qui sont férus d'histoire africaine, tous ceux qui sont férus de l'Afrique, des Noirs et de la diaspora. Voilà.
Et est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi un blog sur Facebook ? Enfin, si j'ai bien compris, votre relais principal est Facebook.
Oui, oui.
Est-ce que c'est pour ça ? Et est-ce que vous avez pour ambition d'aller sur d'autres plateformes ?
Oui. Effectivement, oui, j'ai choisi Facebook, même si c'est normalement c'est une tranche d'âge plus jeune qui est plus sur Facebook. Oui, j'ai choisi Facebook parce que c'est le relais, pour le moment, le relais le plus simple que j'ai trouvé. J'ai pensé aussi faire aller sur Internet et puis faire une page historique et tout ça. Mais Facebook me paraissait, après avoir échangé avec des membres de ma famille, le relais le plus simple, avec ma petite soeur aussi qui est au Bénin, le relais le plus simple pour que les gens entendent ce que je dis, pour que les gens comprennent. Et le plus important, c'était employer des termes, même si ce sont des thèmes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des thèmes simples, même si ce sont des thèmes différents, nouveaux, pour qu'ils puissent comprendre. Donc, oui, je m'adresse à tout le monde. Je voulais que tout le monde puisse comprendre ce que j'écris. J'espère que j'y arrive un tout petit peu quand même. Mais bon, on s'améliore de jour en jour. J'essaie de tirer le meilleur de moi-même chaque fois. Donc, voilà, j'en suis là.
Et votre blog, il apparaît à un moment où on a cet intérêt pour découvrir, je dirais redécouvrir, mais pour beaucoup, découvrir l'histoire de l'Afrique, l'histoire africaine et l'histoire de la diaspora africaine. Et il y a beaucoup d'attentes, c'est-à-dire que les internautes souvent sont très passionnés par rapport à ce sujet. Est-ce que vous avez parfois des craintes par rapport à la manière dont vos travaux, vos publications, vos blogs, votre blog va être reçu ? Parce que peut-être que vous ne répondriez pas forcément à l'attente éditoriale que certaines personnes voudraient ?
Oui, je discute avec un ami qui est plus qu'un ami, un frère qui est professeur d'université au Bénin, professeur Didier Renoudé. Je sais, par ailleurs, qu'il y a des groupes, qui se sont formés, des groupes, on va dire, des chercheurs, même si tous ne sont pas véritablement, n'emploient pas véritablement une méthode scientifique, des groupes de chercheurs qui aurait tendance à rejeter tout ce qui a déjà été fait et à trouver que l'Afrique est la victime dans tous les sens du terme. Il faut pouvoir mettre de la mesure dans le propos, dans les recherches qu'on fait. Il ne faut pas faire une recherche unilatérale sans prendre en compte les propos ou les écrits d'autres auteurs, notamment les auteurs occidentaux. Oui, j'entends bien ce que le reproche qu'on pourrait faire pour, en disant que je ne fais pas la part, je devrais faire la part plus belle encore au peuple africain. Mais non, l'honnêteté intellectuelle veut qu'on puisse écouter les propos, lire les preuves et les propos d'autres chercheurs que des Africains. Donc, j'essaie qu'on peut toujours, quel que soit, quand vous avez une œuvre humaine, on trouvera toujours à dire. Forcément, c'est une œuvre humaine. Mais je m'inscris dans un certain processus de chercheurs africains qui décident de prendre leur histoire en main et de l'écrire par eux-mêmes. Donc oui, il y aura des critiques, mais il faut avancer. Il faut avancer avec ces critiques et essayer de s'améliorer. Donc moi, je n'ai pas plus de crainte que ça, en fait.
Est-ce que vous pensez que votre parcours de vie, votre parcours personnel, fait que vous n'êtes pas forcément focalisé sur une seule identité, parce que vous revendiquez votre identité, je ne dirais pas nationalité peut-être, mais de votre identité bénino-ivoirien, alors que vous avez le passeport béninois. Est-ce que ça explique un petit peu votre rapport à se focaliser sur un élément alors que vous êtes plurifacette en réalité?
Je ne suis peut-être pas plus apte que ça à répondre à cette question. Toujours est-il que moi, je le revendique haut et fort. Pendant que j'étais au Bénin, on me traitait d'Ivoirien. Et si je retourne en Côte d'Ivoire, on va me traiter de Béninois. Donc, je suis les deux. La question, moi, cette question-là, je l'ai déjà dépassée. Ce n'est pas un problème pour moi. Oui, moi, je trouve que l'avenir est dans le métissage. On ne peut pas vraiment évoluer en restant en vase clos. Il faut pouvoir échanger. Et pour moi, mon identité, ma double identité est une chance. Je la conçois comme ça. C'est une chance. Je suis né et j'ai grandi dans une localité à 600 km d'Abidjan, je le revendique, et j'ai fait mes études universitaires. Mes parents sont béninois, je suis arrivé en France, donc je n'ai pas peur de mon passé, je revendique cela. Donc pour moi, c'est une force. Si des gens voient ça comme une faiblesse, je les laisse libres de penser ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'est une force.
Et on va terminer sur un aspect un petit peu plus léger. Vous nous avez raconté que vous avez fait de la radio avant, et c'est un petit peu lié à votre parcours en réalité aussi par rapport à ça.
Oui, justement. J'étais retourné en Côte d'Ivoire dans mon parcours universitaire. J'ai retourné voir les parents en Côte d'Ivoire. Quand la radio communale de ma ville de naissance, Guiglo, j'avais un ami qui travaillait, il m'a dit « Ah, viens, tu voudras bien passer, faire quelques émissions avec nous pour nous expliquer ton parcours, ce qui a marché pour toi au Bénin et plein d'autres choses. » Et donc, oui, j'ai eu une petite expérience dans une radio au Bénin, oui.
Et si ça vous va, si ça va à tout le monde, je propose qu'on fasse une petite pause musicale à nouveau avec une chanson. Alors, j'hésite sur la prononciation du groupe, c'est Ballet Bassé, si je ne m'abuse, et c'est la chanson Fiction.
Les mentalités de notre société, difficile de ne pas les regretter. Je m'imagine face à mes enfants, qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Dire qu'une histoire de loup-garou, parce qu'ici la victime c'est nous, mes filles et fils. Je vous attends, mais j'ai peur de manquer d'arguments pour vous expliquer ce qui se passe autour de vous, pour vous éclairer sur ce qui se passe dans ce monde de fous.
En effet, les gens ne sourient pas. N'est pas un conte de fées, tu baisses tes bras, tu ne riras pas. À droite, à gauche, derrière, devant, personne ne bouge, y'a que des morts vivants.
C'est juste une fiction, fiction pour nos filles et fils. Ton dans ce monde en manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction pour nos filles et fils. Ton dans ce monde en manque d'affection, donc place à la réflexion.
Qu'est-ce que je peux dire qu'une fois de plus c'est le regard de celle que j'aime qui me fait fondre. Que je m'aperçois que le monde s'effondre et que c'est ça qui me fait pondre. Des textes durs comme l'économie d'un pays du tiers monde. Que quand j'aurai des gosses je saurai pas quoi répondre aux questions qu'ils poseront sur le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que je leur dirai qu'ils sont plongés dans une arène où la thune est la reine et les requins aussi nombreux que les femmes dans un harem. Est-ce que je briserai leurs illusions dès que possible. Est-ce que je leur dirai que le Père Noël est pédophile. Que Dieu n'existe pas et qu'on est seul sur terre. Que pourtant pour lui des hommes s'envoient au cimetière. Que cet homme crève de faim car personne ne sait qu'il existe. Et qu'on prend prends pas la main qu'il tend, car le bonheur est égoïste. Ils me demanderont c'est quoi la vie, j'en sais rien. L'existence est faite d'attente, certains attendent le grand love de leur vie. La plupart d'amasser des liasses, de lover, d'autres attendent de crever. Ils veulent une trêve car ils n'arrivent plus à rêver. Entre ceux-là t'as la femme battue qui rêve d'un bouquet de roses, et le camé qui attend sa dose. Tous les smicards pour qui c'est tous les jours la même chose. Toutes les poufias qui prennent les mêmes poses. Mais bon là c'est Moïse qui prend le dessus avec ses idées sombres. À présent je vois mon fils qui s'étonne et me questionne. Papa, pourquoi ces deux hommes s'embrassent comme maman et toi? Mais parce que c'est leur droit, surtout leur choix. Surtout n'écoute pas ceux qui disent que c'est contre nature tout ça.
On prendra pour un gars marginal si t'écoutes reggae, raga, hip-hop et toute cette bombe de balle. Et oui c'est comme ça, au niveau son garçon y'a peu de bonnes vibrations. Endormi la population, faudra mettre des coups de pression. Y'a trop de pantins qu'on appelle staff, les bacs festins et beaucoup stars. La mode rien à voir, trop de fossiles, sa classe et rend des types hostiles. Mais c'est une fiction, fiction, pour nos fils et fistons. Dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction, pour nos fils et fistons. Dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion.
Attends, attends, attends avant de te brûler les ailes. Attends, ne sois pas si impatient petit frère. Tu n'es que débutant dans cette vie de misère, débutant dans cette drôle de galère. Ici c'est un pour tous et chacun pour soi. Il va s'agir pour toi de grandir comme un soldat, d'éviter tous les coups bas et tous les bons vocables, d'esquiver toutes choses impures mais t'empêcher d'être un gros dur. Attends, attends, attends avant de te brûler les ailes. Attends, ne sois pas si impatient petit frère. Tu n'es que débutant dans cette vie de misère, débutant dans cette drôle de galère. Apprenti dans la vie, c'est toujours ainsi. Croire en un monde utopique, c'est classique. Allergique à la politique, tu n'as aucune notion du fric. Protège-toi des voies diaboliques, petit frère. Préserve-toi, prends soin de toi.
Personne ne porte d'attention à celui qui tombe à terre. Et y'a que dans le dictionnaire tu pourras trouver solidaire. Pourquoi les fashions sont en uniforme? Pourquoi les libertés régressent? Pourquoi si tu n'es pas dans la norme, le Babylone système t'agresse? Comme ça tu te poseras plein de questions. Nous-mêmes on s'est déjà posé. La seule réponse qu'on ait trouvée, c'est que tous les jours faut militer. Tu verras le monde tourne à l'envers, j'ai l'impression que ça dégénère. Mais y'a encore quelque chose à faire, c'est pour ça qu'on sera père et mère. Tu verras le monde tourne à l'envers, j'ai l'impression que ça dégénère. Mais y'a encore quelque chose à faire, c'est pour ça qu'on sera père et mère. Faudra pas tergiverser, pas toujours se faire bercer. Un jour gars faudra percer pour que les rôles soient inversés. Mais c'est une fiction, fiction, pour nos fils et fistons. Dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction, pour nos fils et fistons. Dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion.
Si mes gosses veulent savoir pourquoi ça tire tout part, et qu'aux infos de 20h on a la mort en fil conducteur. Religion, fric, territoire, politique, au fond j'en sais rien fiston. Qui tire les ficelles de ce putain de bordel? Ils voudront savoir aussi pourquoi à la maison je suis zen et que c'est plus la même. Une fois que je monte sur scène, c'est que j'ai du mal à rester calme et posé. Quand je parle du ramassis névrosé auquel on est exposé, je me sens obligé d'exploser par texte, par rose interposée. Et puis on sait jamais, peut-être qu'un jour Moïse sera une marque déposée. S'il me demande pourquoi j'ai l'air d'avoir le blues, c'est parce que je rêve de vivre à poil dans une forêt, loin des enfoirés qui ne pensent qu'à se perforer pour un peu de flouze. Enfin je voudrais leur parler de justice, d'amour ou de guerre, leur dire pourquoi j'aime leur mère plus que toutes les tasses qui m'ont donné leur derrière mais m'ont laissé amer. J'aurais tellement de choses à leur expliquer mais ça reste mes visions, donc je leur dirai rien de tout ça. C'est trop con, trop jeune pour comprendre tout compte fait. Faut qu'ils en passent par les contes de fées. Je veux pas les étouffer, qu'ils aient l'impression d'avoir tout fait. À cause de mes théories peu objectives, j'ai un voile noir sur l'objectif. Je devrais leur dire que la vie est un objectif. Je ne veux pas qu'ils soient aigris avant l'heure. Je sais qu'ils grandiront à toute allure et s'apercevront assez tôt que le monde n'est pas aussi beau qu'il en a l'air.
C'est juste une fiction, fiction, pour nos fils et fistons. Dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction, pour nos fils et fistons. Dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction, c'est juste une fiction, fiction. 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 C'est juste une fiction, fiction.
Vous écoutez Nantaise et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
Alors c'était Ballet Basset avec leur morceau Fiction. Je reviens justement au sujet du jour qui est l'histoire, qui n'est pas tout à fait la même chose dans ce sens-là. Je voulais votre avis un petit peu, on a un petit peu entamé la conversation sur cet intérêt, ce regain d'intérêt en tout cas pour l'histoire et l'identité historique des personnes. Mais avant de rentrer dans l'identité des personnes, si on veut, qui est une notion assez fourre-tout, d'où est venu, vous, votre intérêt pour l'histoire et l'histoire de l'art, premièrement?
Bien, une amie me dirait, Alice en particulier, que mon rapport dès fait le collège et le lycée avec mes professeurs d'histoire géo était telle que je ne pouvais que terminer historien, en fait. Elle l'a dit une fois sur les commentaires. Merci à tel et tel professeur qui t'ont formé parce qu'il était déjà dit que tu terminerais en histoire. Mais oui, j'ai toujours aimé l'histoire et la géographie, on va dire ça comme ça, en collège et lycée, même si je n'avais rien véritablement contre les calculs. Disons que c'est eux qui ont eu un problème avec moi à partir du collège. Mais bon, j'ai
c'est
fait avec.
C'est ce qu'on dit souvent.
Voilà, j'ai fait avec. Et mon amour pour cette discipline a grandi au fur et à mesure de mon évolution dans le cycle jusqu'au lycée et puis avec mon bac littéraire. Après, quand j'ai eu le bac, il y a eu un souci parce que ma mère, paix à son âme, voulait que je fasse du droit. Mm. Et donc, quand j'ai eu le bac en Côte d'Ivoire, à Guigleux, que je pars au Bénin, on me dit, ouais, maman me dit, ouais, tu feras du droit. Ok, maman, je ferai du droit pour
te faire plaisir. On dirait le titre d'un livre, Mon fils, tu feras du droit.
Voilà, donc je m'inscris en droit. Mais je venais de la Côte d'Ivoire, j'arrivais au Bénin, c'était pas forcément la même chose. Et donc, je me suis caché les dents pour la première fois à la fac de droit du Bénin. Et j'ai pas du tout aimé, parce que j'estimais, peut-être que c'est faux, que c'était pas juste. Parce que j'avais tout fait pour valider l'année, ça n'avait pas marché. Donc, j'ai dit à ma mère, bon, écoute, j'ai fait ce que toi tu voulais, ça n'a pas marché, donc je vais faire ce que moi je veux. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc l'année qui suit, j'ai fait une double inscription en droit pour faire plaisir à ma mère et puis en histoire pour me faire plaisir à moi. Sauf que l'année qui suit, il y a encore un autre problème. Au Bénin, il y a de gros soucis, on nous blanchit l'année, donc il n'y a pas d'examen. Donc finalement, j'ai dit à moi, bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc je continue en histoire qui est mon choix. Donc je fais ma première année, ma deuxième année. Et en licence, il se trouve que l'adaptation avec le Bénin se passe toujours moyennement. Et donc, dès que je valide une année, je retourne en Côte d'Ivoire auprès des parents. Donc, quand on a validé la licence, il fallait faire un choix d'options. Histoire contemporaine, histoire de l'art ou archéologie. Histoire ou archéologie. Donc, mon meilleur ami a dit, mais comme vu que tu n'étais pas là, j'ai fait un choix pour nous deux. Moi, j'avais choisi l'histoire de l'art. Donc, il nous a tous envoyé en histoire de l'art.
En
donc,
fait, l'histoire de l'art vous a choisi, c'est pas l'inverse.
Il est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Bénin. Renoudé Didier, il est professeur. Il m'a dit, bon, tu n'étais pas là, donc j'ai fait un choix pour nous. Ok, si tu l'as fait, bon, voilà, je vais assumer. Donc, c'est comme ça que j'arrive en histoire de l'art et que je fais un travail en master sur les masques et tout ça. Et puis, voilà, il y a tout ce qui arrive qui suit.
Est-ce que c'est votre personnalité un petit peu ça de... Parce que vous aviez proposé une chanson mm-hmm. que nous n'avons pas pu passer aujourd'hui, mm-hmm. Enfin, problème technique si on veut. Et une de ces chansons-là, enfin, celle-là qu'on n'a pas aujourd'hui, ça parle de vivre presque, tout simplement. C'est-à-dire manger oui, aujourd'hui oui. parce que vous pouvez manger.
Oui, et ne pas se croire plus grand. C'était une chanson de Sagboran Danielou. Tous les Béninois qui m'écoutent vont se reconnaître. À mon Amonoundé, c'est ce que tu auras obtenu. Il ne faut pas se croire plus grand qu'on est dans ce monde. Parce que s'il y a une situation dans laquelle tous les hommes sont justes, tous les hommes sont égaux, c'est la mort. Tu auras beau être milliardaire, quand tu seras mort, c'est quelqu'un d'autre qui te fera prendre ta toilette. C'est ce que la chanson dit. Donc, oui, c'est, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais c'est à ce moment-là, c'est ce choix-là qui m'a tapé dans l'œil et puis j'ai voulu passer la chanson. Les auditeurs
pourront chercher. Ils auront sur YouTube.
Voilà, sur YouTube. Sabourin Daniano, Amonoundé. Donc, voilà un peu, c'était ça.
Et pour revenir à ma question initiale, est-ce que vous avez une théorie, vous sur pourquoi les gens en ce moment sont particulièrement intéressés par l'histoire et surtout l'histoire des identités et l'histoire des origines notamment.
Bon, c'est le contexte général, je vais dire. Dans tous les pays, on estime que s'approprier son identité est un des fondements du caractère humain. Et donc, si ça se passe en Europe, en Amérique, les Africains aussi ne sont pas en marge de l'histoire. Donc, c'est normal qu'on s'approprie la chose. Donc, moi, je considère que c'est le contexte général qui veut ça. Et les médias, les différents médias qu'il y a, les différents supports qu'il y a, font qu'il est nécessaire, voire indispensable pour tous les peuples de reprendre en main leur histoire. Voilà, c'est le contexte général, moi, je trouve.
Et est-ce que les réseaux sociaux sont une plateforme qui est investi tout particulièrement par les entre guillemets minorités parce que les plateformes plus officielles ne s'intéressent pas forcément autant à cette histoire-là.
les réseaux sociaux sont investis plus généralement par les jeunes ou par une catégorie qui est un peu plus active sur cela. Moi, je prends quand même le partage sur les réseaux sociaux avec quelques pincettes. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, le phénomène des fake news, il faut prendre ce qu'on voit, ce qu'on lit sur Internet et pouvoir comparer, confronter l'information avec ses propres recherches. Mais oui, avec les réseaux sociaux qu'il y a, il y a plus de partage, il y a plus d'informations qui circulent. À chacun de pouvoir faire le tri pour trouver la meilleure ou la bonne information, je vais dire. Voilà.
Alors, j'ai choisi une chanson pour vous. Ça s'appelle « Tes racines », qui est par Adage. Je me suis dit que ce serait une belle insertion dans notre échange du jour. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite.
Merci à vous, Lorraine.
Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang des aïeux vivant hier. L'accent qui paraît dans mes mots, il paraît que papa l'avait aussi. Si j'ai des cheveux pas peignés, c'est que mes parents étaient afro. Ma barbe souvent pas rasée du tout. C'est que dans mon village, on connaît pas ça.
N'oublie pas tes racines quand tu voyages. N'oublie pas ta couleur quand tu vis là-bas.
Écoute les mots qui te parlaient hier. Écoute la voix des vivants d'avant.
N'oublie pas tes racines quand tu voyages. N'oublie pas ta couleur quand tu vis là-bas. De chant, une vieille calebasse réunit mon clan. N'oublie pas tes racines quand tu voyages. N'oublie pas ta couleur quand tu vis là-bas.
Écoute les mots qui te parlaient hier. Écoute la voix des vivants d'avant.
Quand tu voyages, n'oublie pas ta couleur quand tu vis là-bas.
Vous écoutez Nantaise et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
C'était Adage avec le morceau Terracine. Alors, effectivement, on sait d'où on vient. En tout cas, on essaie de savoir d'où on vient, mais rien n'empêche de construire après avec d'autres et d'aller à la rencontre de l'autre, comme vous disiez tout à l'heure. Le métissage, c'est un petit peu l'avenir. Donc, savoir d'où on vient, mais aussi vouloir aller de l'avant et construire ensemble, j'imagine. Est-ce que j'ai bien choisi?
Oui. Je ne connaissais pas le groupe, mais c'est parfait. C'est parfait, oui. Ne pas oublier ses racines, savoir que le métissage est une force et non une faiblesse, et accepter d'échanger, accepter de connaître l'autre et ne pas commencer par des jugements, des préjugés. Connaître l'autre, comprendre l'autre, oui, je valide.
Alors, pour comprendre l'autre, je vous m'ouvrez un petit peu la brèche pour vous demander de faire un petit pitch, parce que nous avons parlé effectivement des petites histoires de Charlie. Mais on n'a pas encore un petit peu vu des contenus bien précis, si vous voulez. Je sais que c'est toujours un petit peu intéressant d'avoir un petit pitch de ce qu'on propose comme contenu. Votre premier épisode, c'était, je schématise, qui sont les Afro-Brésiliens. Si vous aviez 2-3 minutes pour nous présenter un petit peu ce premier épisode-là.
D'accord. Alors, comme pour mon premier coup, quand ma directrice de thèse m'a dit que je devrais faire un cours de civilisation en licence 3, j'ai choisi ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire des éléments de ma thèse. Alors, le patrimoine afro-brésilien, mais surtout la question, qui sont les afro-brésiliens de Malais à Agouda? Alors, Malais et Agouda sont deux thèmes qui font référence au même thème générique final, les afro-brésiliens. Dans afro-brésilien, on a afro et on a brésilien. Donc, n'importe qui peut comprendre que le Brésil est en jeu et l'Afrique est en jeu. Alors, ce sont ces personnes-là, ces hommes et ces femmes qui, à cause de l'esclavage, à cause de la traite atlantique, transatlantique plutôt, à cause de la traite négrière, ont été envoyés de force, ce n'était pas le choix, au Brésil. Donc, quand la colonie du Brésil est découverte en 1500 par Pedro Alvarez Cabral, les Portugais se rendent compte que ils se sont octroyés un immense territoire. Et le Portugal n'est pas en mesure de mettre en valeur la colonie sans l'aide d'autres personnes, sachant que les Portugais eux-mêmes ont du mal avec l'agriculture au Portugal. Donc le roi, les différents rois du Portugal, décident déjà que les Portugais, au moins sur le plan de la navigation maritime, sont en avance, décident donc de longer les côtes africaines et éventuellement, au départ, d'acheter quelques esclaves et puis de tenter des essais sur cette colonie pour voir si ces esclaves-là sont plus adaptés. Avec les Amérindiens, ils meurent comme des mouches, ça ne se passe pas bien. Donc, avec les premiers esclaves noirs qui arrivent, ils se rendent compte que ce sont des gens qui tiennent beaucoup plus, beaucoup mieux face au climat tropical du Brésil. Donc, la traite se généralise et de nombreux noirs, des millions de noirs sont envoyés vers le Brésil. Donc, je travaille sur un groupe de Noirs qui, fondamentalement, se regroupe dans la région de Salvador de Bahia et sa région, au nord-est de la Côte d'Ivoire, du Brésil. Et donc, ces hommes et ces femmes-là évoluent dans ce contexte-là, évoluent dans cette région-là. Mais avec les siècles, avec les années, avec les siècles, c'est-à-dire globalement à partir du 19e siècle, les révoltes deviennent récurrentes. Les révoltes deviennent récurrentes, les esclaves n'ont plus peur parce qu'ils sont nombreux, mais même s'ils ne sont pas les plus armés, ils sont nombreux, ils ont l'avantage du nombre. Donc plusieurs révoltes en 1807, en 1814, en 1816, et mon petit frère dirait la finale, le sommet est atteint en 1835, quand les insurgés attaquent tous les bâtiments publics de Salvador de Bahia parce qu'ils veulent renverser le pouvoir en place et prendre le pouvoir, mais surtout, plus grave, instaurer un califat pour certains d'entre eux parce que les derniers esclaves qui arrivent à partir du premier tiers du 19e siècle sont des gens qui sont déjà musulmans en Afrique et qui refusent avec force le catholicisme qui leur est imposé. Donc, ce premier groupe-là, ce sont les Malais, les Portugais, les Brésiliens les identifient en les appelant Malais. ces Malais-là sont les leaders de la contestation et c'est généralement des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, donc globalement du Bénin, du Nigeria, du Togo et de l'intérieur des terres. Donc arrivés là-bas, ils sont les plus révoltés, les plus agités, ceux qui réclament les libertés et ceux qui réclament finalement à partir de 1835 leur retour en Afrique. Donc ceux qui échappent à la pendaison, à la mort lors de révoltes là, le Brésil accorde un certain nombre de passeports de laissez-passer, environ 800 au départ, pour leur dire, écoutez, bon, vous nous embêtez, vous ne voulez plus rester au Brésil, alors retournez en Afrique. Donc on leur octroie quelques bateaux et certains décident de revenir sur les côtes de l'Afrique. Un seul problème se pose, quand ils reviennent, ils n'essaient pas de s'intégrer. Ils vivent à côté des populations noires autochtones. Donc, on a une classe qui s'est créée parce qu'à ce moment-là, la colonisation des pays africains commence. On a une première classe qui est composée des colons, une seconde classe des Afro-Brésiliens et la classe des indigènes qui fait une troisième classe qui cohabite dans toute cette région-là du Ghana globalement jusqu'au Nigeria. Donc, les Afro-Brésiliens s'installent là. Ils sont appelés Malais au Brésil pour ceux qui sont musulmans. Quand ils reviennent en Afrique, ils prendront le nom de Aguda, qui vient de Ayuda, d'après ce que j'ai pu fouiller et trouver, aider, qui sont des gens qui n'étaient pas là pour aider, des maîtres pour aider les Européens. Donc ça donne les Aguda, et aujourd'hui, le thème générique qui englobe tout ça, ce sont les Afro-Brésiliens.
Et c'est pour ça que moi, je vous appelle le conteur. J'ai merci, tout compris.
Merci, Lorraine.
Alors, je pense que c'est un bon moment aussi pour que vous nous présentiez une des chansons, parce que vous en aviez proposé deux. Une, on connaît son sort, mais la deuxième parle un petit peu de fraternité, ou peut-être l'absence de fraternité, qui peut-être un lien avec l'histoire que vous avez racontée, où justement on retourne sur les terres de sa patrie initiale et qu'on a une rupture de fraternité peut-être entre des peuples qui en réalité ont les mêmes origines, qui sait. Parlez-nous un peu de cette chanson que vous avez choisie.
Oui, je suis à l'aise, on va dire, pour parler de ce chanteur. Il est ivoirien, il s'appelle Ismaël Isaac. J'adore le reggae. Il s'appelle Ismaël Isaac, il fait du reggae. Et le titre de la chanson, c'est Tiri Djougou. Littéralement, mauvais ami ou mauvais camarade. Alors,
pourquoi cette chanson?
Oui, la chanson dit, tu ne peux pas connaître quelqu'un que tu appelles ton ami si tu ne vis pas avec lui, si tu ne partages pas beaucoup de liens, beaucoup de choses avec lui. Et même en partageant avec lui, ceux qui sont véritablement de mauvais amis s'empresseront d'oublier ces moments-là que vous avez passés ensemble. À la première occasion, ils auront, ils vont oublier ces moments-là. Et j'adore. J'adore toutes les thématiques abordées par Ismaël Isaac. Donc, ce choix-là a l'air de soi quand même pour moi.
Eh bien, je propose à nos auditeurs et auditrices de découvrir ce morceau avec moi.
C'est Lorraine.
Wa 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 w
Alors, c'était Ismaël Isaac, choix de notre invité. Alors, vous nous dites un petit peu ce que dit la chanson, vite fait.
Voilà, donc le titre, c'est Terry Djougou. Il rappelle dans la chanson, il dit, quand on est amis et qu'on a partagé toutes les galères possibles, un semblant de réussite ne peut pas fissurer une amitié si c'est une vraie amitié. Dans la chanson, il rappelle que l'ami dont il parle l'a oublié ou a décidé qu'il ne le connaissait plus. J'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'amis, mais ce sont des vrais amis qui sont comme des frères. Donc
c'est peut-être plus une ode à l'amitié que vous avez.
Oui, à la fraternité, oui, une ode à l'amitié. Et ça existe, de vrais amis.
Très bien, Charlemagne, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais vous laisser nous parler peut-être vite fait de quelques projets que vous avez en cours avant que je dise au revoir aux auditeurs et auditrices.
D'accord. Bon, quelques secondes. Bien, je suis toujours investi dans l'association Béninois et Amis de Nantes. J'espère pouvoir retourner au Bénin grâce à un projet sur la restitution des œuvres d'art de la part de la France. Donc, je travaille comme ça sur différents projets. J'aurai peut-être l'occasion une autre fois d'en parler. Et je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Je remercie Lorraine, Timothée, de m'avoir donné l'occasion de passer sur cette émission. Et sur ce, je vais repasser la parole à Lorraine.
Merci à vous. Quelle politesse. Nous espérons, chers auditeurs et auditrices, que vous avez apprécié cette heure passée en compagnie de Charlemagne. Comme d'ailleurs à chaque deuxième dimanche du mois, sur Prune 92 FM, où nous allons à la rencontre des Nantais de cœur, Nantaises et Nantais de cœur. Donc je remercie Charlemagne d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Et je vous souhaite énormément de succès pour ce blog.
Merci, Laura.
Que j'ai parcouru moi-même, bien apprécié.
Merci.
Je remercie Timothée qui était à la réalisation. Merci à toi d'avoir accepté au pied levé de venir.
J'étais pas loin.
Alors nous vous donnons rendez-vous le 13 février pour un nouvel épisode des Nantaises et Nantais d'ailleurs. Et si entre-temps nous vous manquons, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.prune.net. Au revoir.
Te morna tem coladeira, te vassa cheia de amor, nem batu tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rotima, terra povo cheia de amor. Te morna tem coladeira, terra povo cheia de amor, nem batu tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade.
J'arrive codé sur le réseau depuis ouais. J'entends plus rien d'autre que banalité. Complet brouillé sur le terrain depuis ouais. Personne ne voit l'ombre se faire aligner. J'arrive codé sur le rivage depuis ouais. J'écris des mondes qui deviennent éternité. Souris ton visage est filmé depuis ouais. Tout s'écrit depuis ouais. J'arrive codé dans le périmètre. Sur la route c'était la nuit devant. Histoire de vie qui se périmait. Histoire de perdre un peu prudemment. Fallait quitter la